l'organisation de l'État. Alors, par référentiels généraux, on entend référentiel général d'interopérabilité, référentiel général de sécurité et référentiel général d'accessibilité pour les administrations. Pourquoi trois référentiels? Enfin, d'une certaine manière, 2 plus 1. Il y a deux référentiels qui sont introduits par une première ordonnance téléservice, qui est une ordonnance censée simplifier la mise en œuvre des services de communication et des téléservices à destination des usagers et des échanges entre administrations. Et donc, ce sont les deux référentiels interopérabilité et sécurité. À partir de ces deux référentiels, on est censé répondre à un certain nombre de problématiques tournées autour de du respect d'un certain nombre de normes et de standards, de façon à favoriser l'interopérabilité des applications avec l'ensemble des systèmes d'information et entre les différentes administrations. Donc c'est un gros challenge, parce que effectivement, comme il était dit tout à l'heure à propos des standards, le respect des standards est important à partir du moment où on veut échanger avec d'autres personnes, et l'échange avec d'autres personnes dans le cadre de l'administration, eh bien quelquefois c'est échange avec l'ensemble des usagers de l'administration, quand on voit dans le cadre de déclaration d'impôts ou d'autres types de téléservices. On s'aperçoit que le nombre de configurations de postes possibles pour accéder à ce type de téléservice est relativement important, et il est de ce fait important de réduire autant que faire se peut le nombre de ce type de configuration, de façon à ce qu'on facilite la mise en œuvre de l'ensemble de ces téléservices. Donc, voilà pour ces deux référentiels, interopérabilité et sécurité. Et aujourd'hui, je vais parler plus particulièrement de celui d'accessibilité pour les administrations, qui a été introduit par la loi du 11 février 2005, mais dans les travaux de l'administration, il y avait déjà un référentiel existant auparavant, puisque dans la structure précédant la DGME, c'est-à-dire la DAE, il y avait déjà les travaux qui avaient été menés pour l'élaboration d'un référentiel des sites Internet pour l'administration. Donc, toutes ces actions qui ont été menées parce que nous sommes dans une phase de fort développement des services de public en ligne, de plus en plus important, tant vers l'usager qu'entre les différentes administrations, que l'on est dans une phase où l'ensemble de ces échanges concernent tant Internet, mais également l'utilisation d'autres terminaux. La téléphonie mobile en est un exemple. La généralisation de la télévision numérique en est un autre. Et donc, c'est tout un ensemble de services de communication publique en ligne qui peuvent être mis en œuvre et pour lesquels, eh bien, si l'on prend les précautions nécessaires au bon moment et au bon niveau, eh bien, on peut faire des préconisations en termes de standards, en termes de méthodes, en termes de pratiques, en termes d'accompagnement culturel, parce que c'est d'abord et avant tout un changement de comportement de la part des hommes, quelque part, la prise de conscience d'un décideur, d'un élu, eh bien, c'est déjà de se dire que la rampe d'accès pour accéder à la mairie ou au site public, eh bien, ça doit être aussi évident que de rendre son site accessible. Et là encore, il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de sensibilisation par rapport à toutes ces problématiques. Et donc, une loi était nécessaire pour déjà sensibiliser, mais une loi n'est pas suffisante pour atteindre réellement les objectifs qui sont assignés, c'est-à-dire faire en sorte que l'ensemble des usagers ait un accès assez simple, facilité, ou du moins au moins penser pour eux, et s'il n'est pas accessible à ce moment-là, identifier quelles sont les possibilités qui sont offertes pour pouvoir accéder malgré tout à l'information, donc penser à des systèmes dégradés. Ce n'est pas obligatoirement entrer dans des logiques, par exemple, pour les sites web existants, de se dire 100% du site doit être accessible. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà un historique assez important qu'il faut prendre en compte. Donc, mettre en place un dispositif réglementaire qui serait trop contraignant aurait un effet repoussoir. Donc, c'est de trouver quelles sont les meilleures approches de façon à ce qu'on se place dans une démarche d'amélioration continue de l'accessibilité et de faire en sorte qu'à terme, eh bien, ce soit quelque chose de naturel, quel que soit le type de service que l'on met en place, de façon à penser à l'ensemble des populations concernées, qu'elles soient handicapées, mais également qu'elles soient des personnes âgées. On sait que de plus en plus, on a une population vieillissante en France, et donc, de fait, eh bien, il doit y avoir des adaptations qui soient prévues nativement déjà aujourd'hui, ne serait-ce que pour agrandir la taille de la police des caractères. C'est le simple fait de faire un contrôle plus, par exemple, pour avoir une police de caractère plus grosse, eh bien, sur la plupart des sites, ce sont des fonctionnalités qui ne sont toujours pas existantes. Donc, beaucoup de travail à faire pour arriver à avoir un ensemble de services de communication publique en ligne qui soit accessible. Donc, j'ai parlé un peu de la loi de 2005. Bon, elle s'inscrit dans une démarche que d'autres pays au niveau européen, mais également au niveau international, ont également adoptée, avec plus ou moins de contraintes. En France, dans le cadre de l'article 47, qui est celui qui intéresse plus particulièrement les services de communication publique en ligne, l'article de la loi introduit la notion de sanction, et donc qui dit sanction dit derrière eh bien, avoir l'élaboration d'un dossier de conformité. Et là, eh bien, on va rentrer dans la mise en œuvre d'un cadre réglementaire beaucoup plus contraignant qu'il n'existait avant, et donc prendre les précautions nécessaires de façon à ce qu'on n'entre pas trop facilement dans des contentieux vis-à-vis de l'administration. Parce que, de plus en plus, on est dans une relation entre usagers et services de l'administration, mais également le secteur privé, où de plus en plus, les usagers ont recours à la justice pour faire valoir leurs droits. Donc, c'est une composante importante à prendre en compte dans l'élaboration de preuves pouvant servir dans le cas de contentieux. 97% des sites inaccessibles en Europe, bien là aussi, c'est un constat qui avait été fait lors de la présidence européenne anglaise, où il s'était lancé dans l'analyse de 500 sites web européens relevant des administrations, et où il s'était aperçu, enfin le constat qui avait été tiré de cette analyse, était que 97% des sites étaient inaccessibles, c'est-à-dire que par rapport aux recommandations internationales du W3C, ils n'atteignaient même pas le niveau 1A. Et pour les 3% restants, dans ces 3%, tous n'atteignaient pas obligatoirement ce niveau 1A. Donc on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire avant d'avoir 100%. Ah, d'accord. Avant d'avoir 100% des sites qui soient accessibles. Nous ne sommes pas partis de rien, comme je le disais. Depuis 1994, enfin si on reprend ce développé, donc 94 W3C, 97 les WCAG, et également la mise en œuvre, la création de BrailleNet. En 99, nous avons eu les WCAG 1.0. En 2000, la démarche AccessiWeb. En 2004, le référentiel ADAE, première version. En 2005, l'article 47 de la loi pour la France. En 2007, l'élaboration du référentiel général d'accessibilité pour les administrations. Et bientôt, ça fait un certain nombre d'années qu'on en parle, mais les WCAG vont sortir. Donc ce sera pour certainement ce millénaire-là. Quelles sont les attentes de l'État français? Donc, comme je l'ai un peu développé, c'est surtout un référentiel qui soit adapté aux besoins de la réglementation, donc un référentiel dans lequel on puisse élaborer un dossier de conformité. Et un dossier de conformité, ça veut dire que, eh bien, derrière, on doit avoir des tests qui soient objectifs et non subjectifs, de façon à ce que, eh bien, on puisse répondre oui ou non, ou du moins donner une certaine valeur par rapport au test qui est passé. Un référentiel qui s'inscrit dans le cadre des référentiels généraux, donc l'accessibilité qui est une partie du triptyque des référentiels interopérabilité et sécurité, l'accessibilité qui doit respecter les besoins de la loi en matière de handicap, enfin l'accès aux handicapés, mais je dirais plus largement faire en sorte que ça améliore l'ergonomie et la manière d'accéder aux services de communication publique en ligne, que ce soit du web, que ce soit du téléphone, que ce soit de la télévision pour l'instant et certainement d'autres canaux pour la suite. Et un référentiel et des outils de déploiement et d'évaluation qui soient progressifs, parce qu'on sait très bien qu'on part, comme je le disais, je le faisais remarquer tout à l'heure, aujourd'hui 97% des sites ne sont pas accessibles. Enfin, c'était déjà en 2005. Pourtant, la Commission européenne avait déjà, depuis 2002, demandé à ce que l'ensemble des sites soient au niveau AA. Donc, on s'aperçoit que c'est une démarche itérative qui doit être menée, de faire en sorte que l'on tienne compte de l'existant, de la capacité qu'a l'existant à évoluer. Je parle au niveau des services d'une part, mais également au niveau de l'ensemble des acteurs qui ont à mettre en accessibilité, donc en matière de formation, de prise de conscience de cette évolution dans la mise en accessibilité de l'ensemble de ces services, et donc l'ensemble du dispositif qui est mis en place par le RGAA doit être un dispositif qui permette d'identifier quelles sont les évolutions qui sont faites d'une année sur l'autre et quels sont les axes d'amélioration sur lesquels on doit travailler, tant en matière d'outils, d'analyse, que d'efforts de formation qui sont à mener. Les attentes des réseaux associatifs sont bien entendu le respect des personnes handicapées et des standards internationaux, mais je dirais plus largement l'ensemble des personnes qui auront à accéder à l'ensemble des services de communication publique en ligne. Et les attentes des prestataires et des services de l'administration, c'est de connaître les techniques à déployer et les moyens de vérifier la mise en œuvre. Ça, c'est une première chose. Et au niveau des administrations en règle générale, c'est de savoir quels sont les coûts qui sont générés par cette mise en accessibilité, de façon à pouvoir mettre en œuvre un plan pluriannuel sur l'évolution de l'accessibilité de l'ensemble de ces services de communication publique en ligne. Donc tout ne se fera pas en un an, tout ne se fera pas en trois ans, ça se fera certainement sur un moyen terme de 5 à 10 ans, je pense, parce qu'on part de loin. Mais le plus important, c'est déjà de donner une cible qui soit relativement claire, de façon à ce que l'ensemble des décideurs sachent qu'est-ce que veut dire l'accessibilité, quels sont les intérêts pour eux à mettre en accessibilité un service, quels sont les gains qu'ils peuvent y trouver, tant au niveau administration centrale qu'au niveau des administrations locales, donc collectivités locales. Alors, le processus de création du RGAA, ça a été d'abord la définition de la structure et de l'architecture du référentiel en lui-même. Ensuite, la rédaction des contenus est ce que j'appelle le document martyr, c'est-à-dire un document que l'on soumet à la vindicte des experts et qui permet aux uns et aux autres de dire « ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça il faut modifier ». Et Dieu sait si c'est plus facile de critiquer un document qui est déjà fait plutôt que de faire venir autour d'une table des personnes pour partir d'une feuille blanche. Donc maintenant, c'est une pratique relativement courante dans l'élaboration des référentiels généraux de partir sur la base d'un document martyr qui est soumis à consultation par des experts ou par une consultation publique. Là, dans le cas du référentiel accessibilité, eh bien, ça a été un groupe de travail et donc un collège d'experts accessibilité qui est composé de représentants des administrations, des collectivités locales, des associations et des industriels. Et avec ensuite un appel à commentaires public et une validation finale. Du point de vue calendrier, en juin 2006, il y a eu un appel d'offres de la DGME. Le plus important pour nous, c'était de bénéficier déjà d'une expertise pour l'élaboration de ce document martyr. Ensuite, en octobre 2006, ça a été la structure et la rédaction du référentiel en V05. En février 2007, l'appel à commentaires restreint au collège d'experts. En mai 2007, l'appel à commentaires public. En juillet 2007, l'intégration des contributions. Septembre 2007, la validation du référentiel 1.0 par le Collège d'experts accessibilité. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur l'élaboration du document d'accompagnement. Et décembre 2007, nous devrions avoir la validation du document d'accompagnement par le Collège d'experts accessibilité. Alors, par rapport à la réglementation, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu d'abord une proposition de décret qui est partie au Conseil d'État et pour lesquelles on nous a dit, bien, il serait préférable que vous reveniez une fois que le référentiel sera fait parce que le décret renvoyait trop au référentiel lui-même et donnait trop de latitude à ce référentiel pour décider d'un certain nombre de règles. Et en cela, eh bien, un certain nombre d'élus s'en sont émus parce que bien, le plus important pour eux, c'est de savoir quels sont les coûts qui sont engendrés par la mise en œuvre d'une nouvelle réglementation. Et ça a été la raison pour laquelle le Conseil d'État nous a demandé d'abord d'élaborer ce référentiel et ensuite bien, de relancer la procédure de soumission du décret au Conseil d'État. D'accord. Donc, le plus important, déjà, ça veut dire, c'est que le référentiel tel qu'il a été élaboré, le RGAA, annule et remplace, dans sa version actuelle, donc avec le document d'accompagnement, annule et remplace le référentiel des sites internet de l'administration qui a été publié en 2004 par l'ADAI. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que tant que le décret induit par l'article 47 de la loi du 11 février n'est pas publié, le RGAA ne peut pas s'imposer au service de l'administration. Donc on est ISO réglementation, enfin au niveau réglementaire, sur le même niveau que le référentiel qui existait auparavant. Mais le circuit Conseil d'État est en cours. Cela veut dire que les services concernés sont invités dès à présent à se mettre en conformité avec le référentiel et participer à son évolution. Donc, lorsque je parlais d'une évolution ou une adaptation du référentiel par rapport à l'existant, eh bien, l'ensemble des administrations et des acteurs sont invités à participer à cette évolution. Et à partir de l'expérience qui est acquise dans la mise en œuvre de ce référentiel accessibilité, Canal Web pour l'instant, eh bien, on pourra affiner le périmètre ou ce mode de définition par rapport aux exigences locales. Ce qui veut dire que dans le document d'accompagnement actuel, ce que l'on va mettre en avant, ce sont déjà des bonnes pratiques sur bien comment faire en sorte que l'ensemble des pages ou des sites, uniquement pour le canal web, j'entends, quelles sont les pages qui doivent être obligatoirement accessibles et quelles sont les parties du site qui doivent être mises en accessibilité. Je m'explique. Dans les différentes discussions que l'on a pu avoir sur quel périmètre, dans le cadre d'un site web, on doit prendre en considération pour la mise en accessibilité. Les discussions étaient soit minimalistes, c'est-à-dire quelques pages incontournables, à ceux qui étaient maximalistes, c'est-à-dire l'ensemble du site doit être accessible. Entre les deux, il y avait des règles de calcul, des méthodes statistiques qui font que dans le cadre d'une réglementation, c'est quelque chose de difficile à mettre en œuvre si on veut avoir une réglementation qui soit claire. Donc dans le cas actuel, ce que l'on est en train de mettre en avant, c'est qu'on va définir un certain nombre de pages obligatoires, donc les pages d'accueil, les mentions légales et d'autres pages qui sont à définir, des pages et du contenu qui, eux aussi, doivent être accessibles, mais cette partie variable, eh bien, on doit tenir compte de l'aspect local du site. Si on prend, par exemple, le site du ministère des Finances, au jour d'aujourd'hui, c'est un site qui compte plus d'un million de pages. La mise en accessibilité de 1 million de pages, si ça n'était pas le cas, ce serait un volume financier beaucoup monstrueux. De la même manière, mettre en accessibilité l'ensemble des contenus du site de l'INA, là aussi, c'est quelque chose de très compliqué à mettre en œuvre. Et donc, vous comprenez bien que la réglementation ne peut pas à chaque fois faire des cas particuliers pour chacun. La mise en accessibilité indifférenciée de l'ensemble des sites de l'administration, en dehors de ces deux cas, de ces deux exemples, eh bien, si on s'adresse aux collectivités locales, il y a certains sites qui vont faire une vingtaine de pages et d'autres sites qui feront quelques milliers de pages. Donc il est difficile d'avoir une analyse statistique qui soit satisfaisante pour donner une règle de calcul qui puisse répondre aux exigences du réglementaire. Dans le cadre des collectivités locales, on pense que l'on pourra s'appuyer sur l'article 46 de cette loi du 11 février, où il est créé au niveau local une commission pour le transport et le bâti et l'accès au public, hein, en règle générale, qui est composée d'un certain nombre d'élus, de responsables territoriaux, de représentants d'associations d'handicapés et qui permettent de discuter sur les besoins de mise en accessibilité au niveau du bâti, mais en étendant les compétences de cette commission, eh bien, on peut envisager une réflexion sur quelles sont les parties du site qui doivent être accessibles. Et donc, on aura vraiment une adaptation au niveau local de ces besoins de mise en accessibilité avec bien quelque chose qui correspond à des pratiques au niveau local. C'est un exemple de démocratie participative d'une certaine manière, mais c'est aussi une manière de faire en sorte qu'on colle au mieux aux besoins des exigences des uns et des autres, qu'il y ait une implication peut-être beaucoup plus importante aussi de l'ensemble des acteurs, de façon à ce qu'on identifie les bonnes pratiques et les grandes tendances. Donc voilà, je pense avoir terminé pour cette première partie. Il y a des informations sur le site de la modernisation de l'État, sur l'accès au référentiel en lui-même, qui va changer bientôt d'adresse, puisqu'il devrait être en référentiel généraux.gouv.fr. Et tout un ensemble d'informations sur l'élaboration du référentiel tel que je voulais te présenter tout à l'heure. Si vous voulez me contacter, Il y a également mon adresse mail. Je vous remercie.
Merci. On passe tout de suite à la suite sur le même sujet et on prend toutes les questions après cette intervention. Élie, je te laisse peut-être te présenter le temps qu'Aurélien lance.
C'est Aurélien qui va
présenter.
D'accord.
Ce sera mieux. Bonjour à tous. Donc on prend la suite de Monsieur Soir. Je me présente rapidement, Aurélien Lévy et Elis Lohim. On est les heureux élus qui ont obtenu l'appel d'offres qu'a lancé la DGME pour les accompagner dans l'élaboration de ce référentiel. Et donc suite à l'introduction que vous a fait Monsieur Soir, on va rentrer un peu plus dans le détail de quel est le contenu de ce référentiel. Mais je vous rassure tout de suite, sans rentrer dans les détails techniques qu'on réserve pour samedi, les ateliers techniques, sur les aspects cadre général qui ont conduit à l'élaboration de ce référentiel et les méthodes de déploiement éventuelles qui sont envisagées pour que les personnes s'approprient ce référentiel. Donc très rapidement, un petit mot sur moi. Donc expert accessibilité chez Tectonica, co-auteur du RG2A comme Élie qui m'accompagne, et qui remplace Laurent Denis qui devait normalement intervenir et qui a eu une rencontre fortuite avec un chevreuil. Donc malheureusement, il y a des petits problèmes pour venir jusqu'ici. Je suis également, contrairement à l'année dernière où on n'avait que des contributeurs Open Web qui participaient, je suis contributeur du site openweb.au.org que vous connaissez peut-être. Je suis également membre du groupe de liaison internationale du Web Standard Project, qui est un peu l'équivalent d'Open Web au niveau international, dont une des missions est d'organiser des rencontres qui s'appellent les WASC Café. Une première a eu lieu en septembre, et il y en aura une prochainement devrait y en avoir une deuxième. D'ailleurs, si vous avez des petits messages personnels, si vous avez des salles à disposition, je suis preneur. Et dernier point, donc j'ai un blog personnel également sur l'accessibilité qui s'appelle Fairytales. Je vais juste rapidement parler de Tectonica, très rapidement, avant de laisser Élie s'introduire. C'est une... se présenter. Tectonica, donc une agence internet orientée autour de trois pôles, accessibilité, donc avec du conseil, de l'audit, de formation, qui essaye de couvrir toute la chaîne de l'accessibilité, du développement et de l'éditorial. Élie, je te laisse te présenter.
Oui, donc... je m'appelle Elis Lohim, j'étais déjà intervenu l'an dernier, donc je vais passer très rapidement. Donc, je suis directeur d'une société qui s'appelle Telesis. Je contribue également au site Open Web en produisant quand je peux des articles. Et je suis fondateur avec Fabrice Bonny d'un projet qui s'appelle OpQuast autour des bonnes pratiques pour la qualité des sites internet. La société Temesis est basée à Bordeaux, elle emploie 5 personnes, elle a été créée en 2000. On est 2 à Bordeaux et 3 en télétravail, à Moulins, Laurent Denis, donc, qui devait faire cette présentation, Fabrice Bonny à Clermont-Ferrand et Michael O'Haro à La Réunion. Voilà, et Yann Smallwood et moi à Bordeaux. J'ai remplacé Laurent Denis au pied levé pour cette présentation. Moi, je dois intervenir... Merci, on va voir, je vais découvrir les slides en même temps que vous. Bon, je vais présenter une première partie sur les choix initiaux qui ont été faits pour la création de ce référentiel général d'accessibilité pour les administrations, et puis voir un peu le cadre aussi, voir dans quel cadre tout ça va s'intégrer. Et puis ensuite, Aurélien reprendra la main sur les modes de déploiement, parce qu'il va aussi falloir voir comment ça va se passer dans les 4 ou 5 années à venir. Voire peut-être même plus, comment va se déployer l'accessibilité sur les sites publics et peut-être même dans un certain nombre de sites privés. Voilà, bon, je vais vous en reparler. C'est parti. Alors, il y avait un certain nombre de contraintes par rapport à la création de ce référentiel général. Moi, j'ai particulièrement travaillé sur les aspects méthodologie.
il ne s'agissait pas de créer, je dirais, un nouveau référentiel qui recrée totalement des nouvelles règles en termes d'accessibilité. Il existe des standards internationaux, les WCAG 1.0 pour l'instant, bientôt 2.0. Il s'agissait de faire en sorte que ce référentiel ne vienne pas induire des nouvelles, induire des nouvelles règles. On est bien en train de parler d'accessibilité. Il n'y a pas 50 façons de voir le problème. C'est bien de l'accessibilité au sens des WCAG 1.0 et 2.0 qu'on est en train de parler. Et il se trouve que le référentiel général d'accessibilité pour les administrations n'arrive pas dans un domaine qui est complètement vierge. Il y a aussi un certain nombre de travaux qui ont été menés au niveau européen. Alors, d'abord, au niveau français, évidemment, par Brainet et AccessiWeb. Moi, je suis expert AccessiWeb. Les gens qui ont travaillé sur ce référentiel, on est plusieurs experts à avoir été formés, notamment par Brainet. Il y a également les travaux qui ont été menés au niveau européen avec UWEM. Donc il s'agissait d'obtenir une compatibilité maximale. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas en train d'envoyer toute une série de sites publics vers des voies qui seraient une accessibilité exotique. C'était un des risques. Disons. Autre chose, notre perception des marchés, des standards et du marché de la qualité web et du marché de l'accessibilité, c'est-à-dire je parle délibérément du marché parce qu'on est, quand même en train de parler de sites publics qui vont faire travailler des prestataires qui vont devoir mettre en œuvre des règles d'accessibilité, des groupes de travail ou des collectifs qui travaillent sur des CMS, des systèmes de gestion de contenu. Donc tout ça, on était en train de dire, on va mettre en place des règles, mais ces règles, il faut qu'on puisse se les approprier. Donc le gros risque, c'est évidemment sur un référentiel comme ça, qui est obligatoire, c'est un rejet en bloc. Il y a un certain nombre de règles qui ont été mises en place et de règles assez, de cadres législatifs assez forts qui se sont mis en place en Europe et depuis longtemps. Et par expérience, maintenant, on sait que ce n'est pas parce qu'il y a un cadre législatif extrêmement fort qu'un référentiel va forcément se déployer. Lorsque des webmasters n'ont pas envie de mettre en place un référentiel, de le respecter ou qu'on ne leur en donne pas les moyens, ben, ils ne le font tout simplement pas. Et évidemment, on peut se poser après la question des sanctions. Mais quand on en est à la sanction, c'est déjà qu'en gros, on s'est planté. Donc, il y a cette question de l'appropriation, en gros. On a quelque chose d'obligatoire, mais comment faire en sorte qu'en plus, si possible, ça, c'est l'avenir qui le dira, si possible, c'est ça. Donc, il y a eu un processus de concertation, un processus de création qui a été de dire, voilà, avec un certain nombre d'experts, 4 ou 5 ont construit un socle solide basé sur les standards internationaux en respectant cette structure. Et puis, ensuite, on passe par un processus de concertation en faisant en sorte que les ajustements, en fait, soient des ajustements minimum, qu'on ne soit pas en train de reconstruire un nouveau référentiel. Sinon, ça peut effectivement durer un certain nombre d'années. Le dernier aspect, c'est que ça soit un outil réaliste. C'est-à-dire que pour beaucoup, alors je ne sais pas si votre perception du marché est la même, il y a beaucoup de gens encore qui pensent que l'accessibilité c'est quelque chose de binaire ou quelque chose de très difficile. Or, on est en train de parler d'un certain nombre de barrières qui peuvent être levées progressivement. Je ne connais pas personnellement de webmasters qui peuvent me dire, ou alors ils sont très mal informés, qui peuvent me dire l'accessibilité, je m'en fiche complètement, ça n'a aucun intérêt. Voilà, vous pouvez l'entendre, mais si vous lui expliquez bien, généralement, ah d'accord, ça peut aussi servir à ça. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Mais il faut arriver à faire en sorte que, enfin, en tout cas, c'est l'objectif du RG2A, c'est de faire en sorte que ça tienne en compte de ces blocages, ça prenne en compte ces blocages. Pour aller dans ce sens de l'appropriation, il n'y a pas une cible. Il n'y a pas, je vous parlais tout à l'heure des gens qui créent les CMS, il y a des webmasters de sites, il y a des administrateurs de sites, il y a des décideurs, il y a des gens qui s'occupent de référencement, il y a des gens qui s'occupent de marketing, et aussi dans le public, hein, qui font, voilà, dans le domaine public. L'accessibilité, je vous parlais d'un certain nombre de barrières qui peuvent bloquer l'accès à différents publics, ben, certains éléments peuvent s'adresser à certaines cibles. Certaines choses concernent plus spécifiquement les gens qui s'occupent de référencement. Certaines choses impactent plus les gens qui s'occupent d'ergonomie. Donc on a essayé de faire en sorte que que ça soit facile à approprier. Donc on a essayé de catégoriser les exigences ou les tests par cible et qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture, tout en conservant toujours ces règles d'accès au niveau A, AA, AAA, qui sont, bon, c'est la Bible, quoi, c'est le standard. Autre chose, lorsque on prend les standards internationaux, on peut avoir, notamment dans les points de contrôle WCAG, des règles qui sont relativement floues et qui cachent un certain nombre d'exigences très précises. On a essayé, là, dans ce cas précis, pour le RG2A, de descendre au niveau du test unitaire, c'est-à-dire de poser des questions qui génèrent des réponses simples. Poser des questions qui soient le plus précises possible et qui génèrent des réponses le plus binaires possible, pratiquement oui-non, en fait. Alors, ça a un inconvénient, ça, c'est de multiplier le nombre de questions, évidemment, parce que pour être plus précis, il faut en mettre plus. Alors, c'est plus facile d'y répondre, mais il faut passer plus de temps pour y répondre. Ça, c'est un des soucis. Alors, pour ce qui concerne, cet ensemble de questions, en fait, constitue des tests unitaires. Ces tests unitaires, c'est leur réussite qui va pouvoir être obligatoire ou recommandée. Alors, il y a quelqu'un ici, je vais passer la parole à Aurélien, parce qu'il est incollable sur cette notion de réussite obligatoire ou recommandée.
Donc, réussite obligatoire, c'est assez simple à comprendre, hein. C'est obligatoire, donc on le fait. Dans l'idée, après, comme disait Élie, il y en a toujours qui essayent de déroger aux règles. La notion de recommander, il ne faut pas la comprendre comme on la fait si on a envie de la faire. La recommander dans les référentiels généraux, la définition du recommander, c'est quelque chose d'obligatoire, mais pour lesquels il peut y avoir des situations, et en fonction des contextes, je pourrais être amené à ne pas satisfaire ce test-là. Alors, c'est un petit peu tiré par les cheveux, on dirait, mais si on avait dû choisir un autre terme, on n'aurait certainement pas choisi recommander en tant que tel, mais il faut avoir à l'esprit, effectivement, que c'est bien des tests qui sont normalement obligatoires, mais qu'en fonction de son contexte, on va pouvoir lever cette obligation. Mais dans l'idée, il faut garder à l'esprit que ces tests, il faut absolument essayer de les satisfaire.
Je vais compléter, en fait, sur tous les standards qualité, les normes qualité, il existe la notion de dérogation. On peut être amené à déroger dans un certain nombre de contextes. Ben, à mon avis, c'est presque plus. Enfin, comme ça que je l'expliquerai.
Voilà. Et on verra.
Une dérogation, mais par contre, je motive le fait de déroger.
Voilà, et on verra juste après que il y a le choix de mise en recommandé et a été fait en fonction de différents critères sur lesquels on va revenir juste après.
Fin 2.
Qui explique aussi des fois que certains critères sont en recommandé plutôt qu'être en obligatoire et comment on a fait ce choix.
Ah bon ? Ok. On me dit de me dépêcher. Toujours cette question de faciliter l'appropriation. On va devoir mettre en place, on ne va pas pouvoir livrer le référentiel tout seul, il va falloir un ensemble. D'accord ? Il faut que j'aille plus vite et que je me déplace. Il va falloir aussi qu'il y ait un ensemble d'outils d'accompagnement qui permettent de faciliter l'exploitation. Il y a le référentiel en lui-même et puis il y a un ensemble d'outils d'accompagnement. Je vais passer relativement rapidement. Donc on a maintenant que vous avez le cadre général, la base normative, c'est les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'Internet. Donc, c'est bien WCAG 1.0 qui sont la référence. Et vous n'allez pas voir débarquer une nouvelle accessibilité. Pour bien comprendre la structure de ce référentiel et la façon dont il a été mis en place, vous avez les WCAG 1.0 qui comportent 14 directives. Donc là, on a mis D1 à D14, hein, numéroté de D1 à D14, 14 directives. Et au total, dans ces directives, il y a un certain nombre de points de contrôle, et il y en a en tout 65 points de contrôle qui sont répartis sur ces 14 directives. Eh bien, le RG2A, ce sont, un peu comme UEM, 209 tests unitaires qui rejoignent la structure de ces points de contrôle. Alors, chaque point de contrôle est structuré de la même façon. Alors là, vous avez la structure telle qu'elle est. Donc, dans un premier temps, vous avez directive Je vais citer un exemple. Directive 1, fournir des alternatives équivalentes au contenu visuel et auditif. On rejoint, hein, c'est WCAG 1.0. 1.1, fournir une alternative textuelle aux éléments non textuels. On est dans le point de contrôle. Et ensuite, on va descendre à un troisième niveau, 1.1.1 ou 1.1.2, qui va être le point de contrôle, le test unitaire. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble. Donc là, vous avez trois directives et 5 points de contrôle pour la directive 1, 2 points de contrôle pour la directive 2, 1 point de contrôle pour la directive 3. OK ? Et maintenant, vous avez... C'est pour moi ou c'est pour aussi Aurélien, tous les deux ?
D'accord. Aurélien, ça fait vite, je t'ai fait un sacou. Hein. Tu veux passer ton temps ?
Bien. Là, vous avez la structure du point de contrôle et vous avez des tests 1-1-1 avec un descriptif, un champ d'application, une priorité, 1-1-2, la même chose. Et vous allez pouvoir descendre, en fait, dans ces 209 tests unitaires à des tests vraiment précis sur ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Aurélien, désolé si j'étais trop long.
On va poursuivre rapidement, juste un petit point donc sur, plus précisément sur WCAG. Comme j'ai dit tout à l'heure, la notion de succès recommandé ou succès obligatoire, la notion de succès s'est définie en fonction d'un arbitrage qui a été fait en fonction du niveau de priorité WCAG, de la difficulté de mise en œuvre ou de la difficulté de test. Et cela a été réparti sur 3 années. Donc on a proposé une lecture des WCAG découpée en 3 années avec une progressivité dans le déploiement des tests. Donc on voit que la première année, on a proposé de déployer 9 tests qui correspondaient au niveau A, 23 tests au niveau 2, etc. etc. Donc tout ça se cumule. Au final, on ne fait pas 9 plus 36 plus 49. Hein. Les 49 contiennent les 36 de l'année d'avant et les 9 de l'année d'avant. Au niveau du respect d'un niveau donné, donc d'un niveau A, AA et AAA, on a 49 tests qui sont rattachés à un niveau A et simplement 4 qui sont en succès recommandé. Donc on peut dire que globalement, le niveau qui est défini par le RG2A et le niveau simple A au niveau minimum. Maintenant, c'est vraiment un niveau minimum, dans le sens qu'on a quand même 77 tests du niveau AA et 32 tests du niveau AAA qui sont également en obligatoire. Donc, si je devais définir le niveau en termes d'accessibilité par rapport au WCAG qui doit être utilisé, c'est globalement un niveau simple A, mais qui prend en compte également de nombreux points de AA et de AAA. Le champ d'application, comme l'a dit Monsieur Soir, vous l'avez laissé comprendre, ça va s'appliquer aux sites internet, intranet et extranet. Car les intranets et l'extranet, quand on entend service de communication publique en ligne, les agents, les agents qui travaillent dans l'administration sont considérés comme du public. Et les intranets sont doublement considérés et, comme étant impactés et devant être mis en accessibilité, car il y a également des articles de loi sur tout ce qui concerne l'accessibilité du poste de travail et donc discrimination éventuelle à l'embauche. Ça concerne des pages obligatoires qui sont définies dans le document d'accompagnement, des pages complémentaires spécifiques comme l'a expliqué Monsieur Soir, et tout contenu qui sera postérieur à la déclaration de conformité ou à la mise en accessibilité. 2 cas types très rapides de déploiement, 1 cas création. Il y a des différentes étapes pour lesquelles je vais devoir spécifiquement travailler sur des points qui sont propres à l'accessibilité. Et toutes les autres étapes sont des étapes qui sont dans quasiment tous les projets et dans lesquelles il va falloir prendre également en compte l'accessibilité si je veux arriver à un produit final qui respectera le RG2A, mais globalement l'accessibilité. Les 2 points, nouveaux points qui seraient à prendre dans un déploiement en termes de création, ce sera la définition des objectifs et du mode de déploiement à choisir et la vérification finale de la conformité. Mais par contre, il faut bien intégrer l'accessibilité dans l'ensemble de ces étapes, au niveau de la conception du contenu, au niveau du design, au niveau de l'intégration dans le CMS ou HTML. Si j'oublie d'intégrer l'accessibilité dans une de ces étapes, vous êtes quasiment sûr à 100% que le produit final ne respectera pas les recommandations et donc que la vérification de la conformité échouera. Deuxième cas, un cas correction, où là, mon objectif est quasiment unique. Mon objectif est de satisfaire l'obligation légale, auquel cas, la démarche est un petit peu différente. Mon premier point, ça va être de définir toujours les objectifs et le mode de déploiement que je vais choisir, mais après, ça va être de faire un audit du site existant, à partir duquel je déroulerai les corrections sur mon système de gestion de contenu ou sur mon site. toujours très important dans ces deux phases, la phase formation, qui effectivement est obligatoire à partir du moment où on veut pérenniser l'accessibilité dans le temps. Il faut absolument que l'ensemble de la chaîne soit sensibilisé et formé. Mode de déploiement. Maintenant, on a vu à peu près dans des scénarios type comment il fallait prendre en compte l'accessibilité. Maintenant, il y a différentes façons de les déployer. On peut choisir, comme on l'a proposé dans le RG2A, de le déployer en plusieurs fois ou de le déployer en une seule fois. Il faut bien faire attention, les années N plus 1 et N plus 2, ce ne sont pas des étapes obligatoires. Ce sont des propositions qui sont faites dans le RG2A de découper l'accessibilité pour rentrer dans une démarche progressive. Si vous voulez découper de façon différente, vous voulez le découper par profil, vous voulez le découper par type d'objet HTML ou par impact financier, vous pouvez le découper comme vous voulez. La différence, effectivement, c'est que soit vous le déployez en une fois ou soit vous le déployez en plusieurs fois. Au niveau de la mise en œuvre, il y aura différentes façons de faire. Soit vous le déployez totalement en interne si vos équipes sont formées, soit totalement en externe via des prestataires, en interne et en externe mélangés, un peu de prestataires, un peu d'interne, ou interne accompagné, c'est-à-dire avec des consultants, ou externe, interne et externe accompagné, éventuellement aussi par des processus de labellisation quand ils existeront. Les plusieurs étapes, le cas plusieurs étapes, donc comme je disais, déploiement possible par annuel, déploiement possible annuel, thématique, par profil. Et pour pouvoir faire ça, il faudra effectivement procéder à une amélioration progressive des compétences et un éventuel contrat de maintenance avec votre prestataire. Si vous ne prévoyez pas dès le départ avec votre prestataire qui va devoir améliorer l'accessibilité de votre site dans le temps, ça sera trop tard. Donc il faut le prévoir dès le départ. De la formation continue, du suivi et de la veille, qui est également capital si on veut maintenir l'accessibilité. Dans le cas en une étape, on aura une acquisition initiale des compétences techniques fortes au début. On aura l'éventuel choix d'un prestataire et d'une solution technique qu'il faudra qualifier. Ce n'est pas une fois qu'on a déployé le site qu'on va se rendre compte que le CLMS qu'on a utilisé, il ne produit pas du code accessible. Donc c'est pareil, au départ d'un projet, il faut bien penser à vérifier et à bien choisir correctement son outil. Et toujours de la formation et du suivi de la veille. Tout ça, en fait, ça nous ramène à ce que vous a expliqué M. Soir tout à l'heure. Le choix de ce mode de déploiement, il est avant tout contextuel. Il est avant tout là, avec beaucoup de souplesse. Il est là pour vous permettre, en fonction de votre contexte technique, humain, financier, politique, tout ce que vous voulez, de choisir ce mode de déploiement. Voilà. Simplement, il faut avoir la possibilité et avoir les connaissances pour le faire. Malheureusement, ça, on ne peut pas y couper. Mais l'idée, c'est vraiment de permettre le plus de gens possible de se lancer dans la démarche. Donc on ne peut pas, on ne s'est pas mis dans l'optique d'imposer un canevas strict. Si on veut vraiment que les gens puissent s'approprier le document, il faut absolument qu'ils puissent le déployer comme ils le veulent, avec évidemment une certaine contrainte sur l'aspect obligatoire. Donc il y a un objectif unique à atteindre, mais pour atteindre cet objectif, vous y allez de la façon dont vous voulez. L'important, c'est que d'ici à 3 ans, ou d'ici à 4 ans, ou d'ici à 5 ans, vous soyez à l'objectif qui a été défini au départ. Conclusion, puisque c'était demandé. Rappel, donc, de toute façon, dans tous les cas, on aura bien 65 points de contrôle vérifiables par 209 tests unitaires. On a un succès à tous les tests dont les tests sont obligatoires d'ici à 3 ans. L'aspect 3 ans est lié au décret, mais si on sort du décret, c'est en 5 ans, en 10 ans, en tant de temps que vous voulez, et une souplesse de déploiement pour faciliter l'appropriation et la mise en œuvre, et une mise en œuvre rapide. Ne pas attendre que le décret soit là. Le contenu est déjà définitif de ce référentiel, hormis le document d'accompagnement, donc il n'y a aucune raison d'attendre pour le mettre en œuvre. Voilà, question.
Merci. Donc on a un peu pressé la fin pour avoir des questions, donc j'espère qu'on aura des questions intéressantes.
Est-ce que j'avais, dans la développement de ces trucs. Est-ce que vous avez considéré les Authoring Tool Accessibility Guidelines, l'équivalent de WCAG pour les outils d'édition des gestion de contenu, etc.
L'objectif, effectivement, à terme, est d'inclure dans le référentiel des critères d'accessibilité qui concerneront les interfaces, que ce soit même éventuellement les interfaces applicatives. Mais pour l'instant, on voulait définir vraiment les objectifs en termes de contenu web, mais qui peuvent être globalement, si on regarde ces références-là, c'est les WCAG qui disent il faut que votre outil produise des WCAG. Donc déjà, on a défini les règles à utiliser pour satisfaire les WCAG, et de là, on pourra ultérieurement définir des règles plus précises pour ce qui est interface de déploiement, ou CMS, ou même après, au-delà, logiciel et autres.
Complément, ça marche. On peut espérer quand même, alors je pense qu'il serait souhaitable un jour d'avoir une vraie méthodologie pour une vraie méthodologie, un vrai référentiel, et notamment dans le domaine francophone, pour toutes les authoring tools. Mais on peut espérer déjà qu'avec ces objectifs là fixés au niveau des interfaces, que par rebond, je veux dire, c'est quand même un marché considérable, hein, c'est quand même quelque chose de très important, c'est peut-être 10, 12, 13 000 sites. Je pense que par rebond, on va avoir très rapidement des bonnes pratiques qui vont se dégager au niveau notamment des CMS. En tout cas, je pense qu'on peut l'espérer.
Hello, Stephanie Truth, Cloudbreaker. Is it okay if I speak in English? My question has to do with the fact that you are, it's probably directed more to Pascal, but I guess the both of you would have answers to that too. My question has to do with, how are you intending to see this as a standard or work with the rest of Europe? I see that UM has contributors from several places, and obviously the names were attributed on the contribution list from the Netherlands and from the UK. Considering that each country probably has different rules for accessibility locally, how do you see that you can create a system whereby it is across, as a standard across Europe?
Avant de répondre, Aurélien Lévy, j'aimerais bien que vous retranscriviez une partie de la question pour que l'auditoire français puisse comprendre.
Donc je vais essayer de résumer. La question consiste à savoir comment on envisage le fait qu'il y a différentes règles dans différents pays européens. Et comment, en quoi le référentiel peut être compatible avec ces différentes règles qu'il y a dans différents pays européens. Je ne sais pas si M. Soir veut...
Alors, je pense que les pratiques, en plus, si on est au niveau européen, les pratiques pour chaque État membre sont des pratiques différentes, hein, et avec des évolutions qui sont nécessairement différentes. Hein. Donc, effectivement, une démarche au niveau européen de type UM est une démarche intéressante parce qu'elle offre une cible au niveau européen. Et donc, pour chaque démarche de chacun des États membres, eh bien, ça leur permet d'avoir cette cible et éventuellement d'être force de proposition par rapport à ces travaux au niveau UM. Parce que c'est pas parce que ces travaux sont au niveau européen que c'est le nec plus ultra en matière de standard, d'une certaine manière. Un standard, bien, on doit le remettre à l'ouvrage assez périodiquement pour dire, bien, effectivement, là, on s'est trompé parce que les pratiques de chaque État membre sont un peu différentes et on va revoir ces règles. Et donc les démarches au niveau de chaque État membre, à mon avis, sont complémentaires de cette démarche européenne.
Moi, j'ajouterais juste un point rapidement. Au niveau de UM, toute la méthodologie unifiée, quasiment l'ensemble des tests qui sont dans UM sont repris dans le RG2A. La seule différence, effectivement, c'est que le RG2A a cette notion d'obligatoire et de recommandé. Donc il y a quelques tests de UM qui sont recommandés. Et la grosse différence aussi, c'est que UM est complètement figé par rapport à WCAG 1. Ils sont complètement fermés sur la structure WCAG 1. Alors que dans le RG2A, on a pris en compte également le début de rédaction de WCAG 2 et également les remontées qu'ont fait les associations de personnes handicapées qui étaient présentes dans le groupe de travail, etc. Donc on a un peu élargi la souplesse de WCAG 1. On est dans une structure formelle de WCAG 1, mais on prend en compte des points qui ne sont pas forcément explicitement dans WCAG 1.
J'ai un complément de réponse aussi. L'objectif, c'est la compatibilité. Dans la mesure où là, on descend à peu près au même niveau que UM, l'idée, c'est d'avoir des tests individuels qui, éventuellement, s'ils s'avèrent qu'ils sont bons ou qu'ils sont pertinents, et qu'on arrive à les mettre en place, qui puissent éventuellement servir, même pour s'appuyer, pour dire que ça ne va pas, venir compléter, même en cadre réel, hein, les travaux qui ont été faits au niveau du UEM. Comme on est dans le même cadre, l'objectif principal, c'était la compatibilité, c'était ne pas aller contre, c'était permettre d'aller dans le même sens.
J'ajouterais en conclusion que c'est une pratique courante en matière de normalisation où on a une notion de profil, typiquement dans les normes de catalogage pour les informations géographiques. Il y a des travaux de profilage pour chaque état de ces normes de catalogage qui sont pourtant une norme ISO. Donc ça procède de la même démarche concernant UEM.
J'avais vu plein de voix se lever par là-bas.
Par partout.
Une minute.
Ça fait 10 secondes.
Oui. Je m'appelle Jérémy Patonnier. Je suis responsable d'une équipe de développement pour CTLM France. Donc, pour nous, le référentiel REGA s'inscrit dans le cadre d'une utilisation à titre privé. Et donc, il n'y a pas le côté contrainte administrative derrière. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce référentiel, quels sont concrètement finalement les outils de mise en œuvre qui vont accompagner ce référentiel? Au-delà de la liste des 209 tests unitaires, est-ce qu'il est prévu des outils de benchmark pour accompagner, des suites de tests automatisés? Quels outils?
Donc, principalement deux outils. Un premier outil qui découlera du site existant en ligne, qui sera revu dans sa navigation, en offrant justement plus de visibilité sur cet accès par profil, par année, par niveau WCAG, avec une navigation par mots-clés, etc., qui vous permettra d'extraire un corpus de tests en fonction du besoin que vous avez, et qui ne sera pas forcément le déploiement en année tel que le propose le RG2A. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça sera, qui sera plus mis en œuvre au moment où il y aura le décret, qui est un outil de test et d'aide à la déclaration de conformité, donc qui sera en partie, pour l'instant, du moins c'est ce qui est prévu, une partie de ce qui est automatisable sera automatisé. Il y a des tests qui sont semi-automatisables, dans lequel cas on va juste pouvoir vous dire si la balise elle est présente, mais pas si elle est, par exemple, le contenu est pertinent. Donc on va simplement, un moteur va vous aider pour voir s'il y a ces balises-là. Et des tests qui sont complètement manuels. Donc là, on aura simplement une interface qui permettra de saisir les commentaires qu'on veut faire par rapport à ces tests qui sont manuels, de manière à pouvoir derrière générer un rapport de vérification de conformité pour dire voilà, mon site, il est valide, il n'est pas valide. J'ai fait tout ce qui était obligatoire, je n'ai pas fait tout ce qui était obligatoire. Il y a des choses qui étaient recommandées que j'ai quand même fait, d'autres que je n'ai pas pu faire, voilà pourquoi, etc.
Bonjour, Laurent Gloguin. Donc, je travaille en agence pour plus très longtemps. J'ai deux questions qui sont assez simples. Déjà, c'est le périmètre d'application, parce que là, vous avez parlé d'un champ de 10 000 à 13 000 sites. Pour moi, l'administration, c'est un concept. Les frontières sont un peu floues. Est-ce que, par exemple, les collectivités territoriales, locales, vont être intégrées dans ce périmètre-là? Et la deuxième question, qui est simple aussi, c'est qui va contrôler? Alors, contrôler en achèvement de projet, et ensuite, où va se trouver le bâton? Parce que bâton et carotte, comment on va motiver les gens et comment on va contrôler qu'effectivement le référentiel est respecté?
Alors, ce qui est prévu dans l'article 47 de la loi, c'est effectivement il y a une sanction. Donc, la sanction est définie dans le cadre du décret. Qui dit donc, sanction dit donc dépôt de dossier de conformité. Donc, tout le dispositif qui vous a été présenté devrait permettre à terme de faire un dépôt de dossier de conformité. La loi indique que tous les sites doivent, enfin, tous les services de communication publique en ligne devront être accessibles dans les 3 ans à dater de la publication du référentiel, enfin de l'arrêté de publication du référentiel. Enfin. Donc, dans les 3 ans. L'ensemble des sites des administrations au sens large et collectivités territoriales et locales inclus devront se mettre en conformité. Donc devront déposer un dossier de conformité sur le dispositif qui sera mis en place. Si éventuellement une personne s'aperçoit que le site n'est pas accessible pour une raison X ou Y et qu'elle eh bien, qu'elle subit un préjudice. Typiquement, elle veut déclarer ses impôts, et puis le site ne respectant pas un certain nombre de critères d'accessibilité obligatoire, eh bien, l'administration fiscale lui dit, eh bien, c'est 10%. Là, elle peut dire qu'elle a subi un préjudice dû à la non-accessibilité de ce site. S'il y a eu un dépôt d'un dossier de conformité et qu'en fait, il est bien conforme par rapport aux spécifications, et qu'après expertise, on s'aperçoit que le contentieux était dû à sa... Enfin, l'expertise démontre que malgré la conformité, eh bien, il y aurait pu avoir ce problème. C'est peut-être une raison d'évolution du référentiel en lui-même, mais il ne pourra pas y avoir de sanctions vis-à-vis de l'administration. Par contre, si c'est l'inverse, si c'est une déclaration de conformité qui a été faite et que l'on s'aperçoit que ce contentieux est dû à un défaut de conformité par rapport à la déclaration elle-même, eh bien là, il y aura effectivement une sanction. Alors la sanction qui est prévue actuellement, c'est l'inscription sur une liste noire de ces sites ou de ces services. Alors vous allez me dire, inscrire un site en liste noire, c'est un peu léger. Mais quand on a commencé à aborder les questions de est-ce qu'il est possible de donner des amendes à l'administration qui va réverser à l'administration, puisque de toute façon, il y a des amendes, hein, c'est un peu marcher sur la tête, quoi. Donc, l'approche liste noire, eh bien, il faut peut-être la compléter d'un dispositif qui se met en place, hein, que vous avez peut-être entendu parler, qui est la LOLF, hein, qui oblige d'une certaine manière, à les responsables des administrations à différents niveaux d'atteindre des objectifs. Et ces objectifs, lorsqu'ils sont atteints, permettent à ces responsables et aux services eh bien, d'avoir une certaine reconnaissance, un certain mérite et un certain nombre de primes qui peuvent être allouées. Il peut être imaginable que lorsque ces responsables de services de communication publique en ligne, donc responsables d'administration, seront sur une liste noire, qu'il pourrait y avoir un impact sur ces objectifs LOLF, puisque l'objectif de la fonction accueil de l'administration, par exemple, ne sera pas atteint. Et donc, de fait, eh bien, il y aura un impact directement sur l'intérêt que peuvent avoir l'ensemble des fonctionnaires ou de l'administration qui est mise en cause. Donc, vous voyez, c'est